Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici les titres de notre Zoom Info du jeudi 13 mars. L'extension du pôle santé à Gignac devrait augmenter l'offre de santé en Cœur d'Hérault. La saison touristique est lancée en pays Cœur d'Hérault qui comprend trois grands sites, les Gorges de l'Hérault, le Cirque de Navacelles et le tout récemment labellisé Grand Site Salagou, Cirque de Mourez. Directement concernée par le tracé de la ligne ferroviaire entre Montpellier et Perpignan, Villeneuve-les-Béziers peine à élaborer son plan local d'urbanisme. Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Villeverac vient de publier son bilan annuel. La Ligue de protection des oiseaux a accueilli 717 oiseaux en 2024. Toutes les communes de l'Hérault sont désormais concernées par l'obligation légale de débroussaillement. Avec ses 900 m² supplémentaires, la surface totale atteignant 3500 m², la deuxième phase de travaux du pôle santé à Gignac, inaugurée en 2022, touche à sa fin. Initiée avec la signature du contrat local de santé entre le pays Cœur d'Hérault et l'Agence régionale de santé, le pôle santé propose désormais une offre de soins diversifiée en dentisterie, orthodontie, gynécologie, kinésithérapie et réflexologie, ostéopathie, orthophonie, psychologie, ainsi qu'un cabinet infirmier et un centre d'imagerie médicale. L'extension porte sur trois axes. Dès avril, les patients et patientes du secteur pourront effectuer un scanner, ce qui répond à une véritable attente puisque 15 000 examens pourraient être effectués annuellement. Sa présence permettra aussi d'ouvrir un centre de soins non programmé pour traiter les urgences non vitales. La communauté de communes a par ailleurs réservé 130 m² pour aménager un centre ressources pour les acteurs de santé locaux avec une salle de réunion, un bureau d'accueil pour la maison Sport Santé, cet espace permettant des actions de formation et de sensibilisation. Le pôle santé, qui entend répondre aux besoins des 43 000 habitants du territoire, résulte d'un partenariat multiple. L'Institut mutualiste à Aizio, Santé et sa clinique Beau Soleil de Montpellier ont des spécialistes qui viennent sur place, ce qui permet également aux patients du pôle d'être admis plus facilement à la clinique si nécessaire. C'est une synergie prévue par le contrat local de santé. Le groupe FDI intervient, lui, sur trois niveaux, avec sa fiduciaire, c'est-à-dire une société qui effectue des travaux de comptabilité pour d'autres entreprises. Il endosse le portage financier du projet, soit 7,4 millions d'euros, extension comprise. En tant que promoteur immobilier, le groupe FDI organise la maîtrise d'ouvrage et enfin, il commercialise les espaces du site à la location ou à la vente et opère le syndic de gestion. La CCVH, de son côté, a aménagé les parkings, les espaces verts et les voies de circulation, à l'instar du pôle d'échange multimodal, qui facilite les déplacements ou encore le développement du transport à la demande, mis en place pour aider les habitants des communes plus reculées à venir à Gignac. En pays Cœur d'Hérault, la saison touristique a été lancée lundi 10 mars depuis la base nautique du Salagou, près de Clermont-l'Hérault. Jean-Louis Gély, vice-président délégué au tourisme au département, a rappelé que ce territoire est unique dans l'Hexagone car il est doté de trois grands sites de France, trois sites exceptionnels et mitoyens. Un atout essentiel pour développer un tourisme non pas de spot, mais de parcours. Un tourisme de fluidité entre chaque espace naturel. Le pays Cœur d'Hérault s'inscrit de surcroît dans la démarche de Géoparc qui concerne 112 communes et couvre 2000 km². Comment faire pour valoriser ces espaces interconnectés ? Claude Carceller, vice-président de la CCVH délégué au tourisme, a rappelé que lors de leur venue, les inspecteurs des grands sites avaient souligné la nécessité de travailler en cohésion et en partenariat. Bref, d'avoir des actions communes. Si le maire de Montpérault a salué la synergie déjà effective des trois offices de tourisme concernés, Clermontais, Lodévoy-Larzac et Vallée de l'Hérault, on entendait poindre la volonté de créer, peut-être à l'horizon 2026, une sorte de super office du tourisme à l'échelle du pays Cœur d'Hérault. La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan est un vieux et très très gros dossier qui colle au basque des responsables politiques locaux depuis le milieu des années 80. Villeneuve-les-Béziers en paye-t-elle le prix ? C'est en tout cas ce qu'affirment ses élus dans la synthèse de la dernière enquête publique. La commune se retrouve effectivement très impactée par le tracé de cette ligne ferroviaire à grande vitesse, que cela soit pour la phase 1 reliant Montpellier à Béziers, prévue de 2029 à 2034, et sa virgule de raccordement entre la ligne nouvelle et le pôle d'échange multimodal de la cité bitéroise. Ou pour la phase 2, 2039-2044, qui prévoit la réalisation du tronçon à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan et la construction d'une gare TGV à Villeneuve. Cet énorme chantier à l'emprise gigantesque s'apparente à un casse-tête inextricable pour confirmer un plan local d'urbanisme qui tienne la route. Car Villeneuve-les-Béziers doit, de surcroît, prendre en compte les zones inondables qui concernent près de 75% du territoire. Les prescriptions impératives du canal du Midi, qui coupe la ville en deux, ainsi que l'actuelle voie ferrée Bordeaux 7, l'A9 et la route de Valras, sans oublier la proximité de l'A75. Ce qui donne lieu à de nombreuses incongruités. En premier lieu, la ZPP, ou zone de passage préférentiel, l'espèce de corridor qui matérialise l'emprise de la future voie TGV et qui n'a fait qu'évoluer au fil des années. Prenons l'exemple d'un promoteur de logements sociaux qui a monté son projet en trois lots différents, donc en trois permis de construire. Quand il a déposé le premier puis le deuxième permis, le projet était en dehors de la ZPP. Mais le troisième, lui, s'est retrouvé inclus dans la ZPP, car le périmètre avait été un peu agrandi. Avec pour conséquence des délais d'instruction plus longs, car le dossier passe dans les mains de SNCF Réseau et l'obligation de refaire une étude acoustique par un bureau agréé. Pour les riverains expropriés, que cela soit des particuliers ou des professionnels, si le nombre de personnes concernées est moindre que prévu, environ 200 personnes, entre les phases 1 et 2, reste que le foncier disponible, lui, est durablement affecté, en particulier sur la zone artisanale de la Montagnette, où la ville a dû geler des terrains qui étaient constructibles, et c'est autant de recettes fiscales et d'habitants en moins. Enfin, la loi Climat et Résilience de 2022 impose de ne plus construire sur de nouveaux terrains à partir de 2050 et, dans l'intervalle, par période de 10 ans, ne peuvent être urbanisés que 50% de ce qui a été urbanisé les 10 années précédentes. Et si Servian, Sérignan ou Sauvian, comme Villeneuve, avaient 4000 habitants il y a 10 ans, ce chiffre n'a pas bougé à Villeneuve alors que les autres communes ont parfois doublé leur population parce qu'ils ont pu promouvoir des projets et attirer des entreprises. Cerise sur le gâteau, le refus par la préfecture d'avaliser le nouveau PLU, finalisé et voté en juillet 2024, au motif qu'il n'était pas d'accord sur le chiffre de la population. Si à terme, le passage de la LGV par Villeneuve-les-Béziers sera un atout, c'est pour l'instant un millefeuille de contraintes. oiseaux, 138 mammifères et 2 reptiles. En 2024, au total, 717 animaux ont été accueillis par le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac. C'est ce qu'indique la Ligue de protection des oiseaux dans son bilan 2024 qui vient d'être publié. Des chiffres en baisse puisqu'en 2023, environ 2300 animaux avaient été accueillis. Une différence qui s'explique pour différentes raisons, à commencer par l'absence d'une personne détentrice du certificat de capacité pour la détention d'espèces non domestiques, qui avait entraîné la fermeture des accueils dès le 1er avril avant leur réouverture progressive. Une restriction d'accueil avait également été appliquée aux laridés et anatidés, des familles d'oiseaux, à partir du 20 novembre en raison du risque élevé de contagion par la grippe aviaire. Le centre a tout de même continué à recevoir différentes espèces d'animaux sauvages. La tourterelle turque, 116 accueils, suivie du goéland lecoffé, 70 accueils, puis du hérisson d'Europe, 42 accueils. 84 rapaces diurnes ont été accueillis, 47 hirondelles et martinets, ou encore 63 chiroptères, le vrai nom de la chauve-souris. Des individus accueillis en grande majorité pour des causes liées aux activités humaines, à la collision à des vitres, au trafic routier, aux infections ou encore à la prédation domestique, principalement par des chats. Une cistude, une des deux seules tortues d'eau douce autochtones que l'on trouve en France, a été sauvée de la captivité illégale. L'animal, qui présentait de nombreuses morsures de chien, souffrait d'infections bactériennes et fongiques. La cistude est, je le rappelle, une espèce protégée et classée vulnérable. La LPO liste également les autres accueils hors du commun qu'elle a pu réaliser en recevant, entre autres, un ibis falcinelle, un vautour moine, un martinet à ventre blanc ou encore un molosse de cestonie, une chauve-souris. Sur les 717 animaux accueillis, 209 ont été relâchés l'an dernier. Pour être relâché, l'animal doit avoir retrouvé l'intégralité de ses facultés, être totalement autonome et ne présenter aucun signe de dépendance aux humains. En 2024, le centre de Villeveyrac a également contribué à un programme scientifique de suivi du faucon Cresserelette, en équipant 7 jeunes individus de balises GPS qui permettent de suivre les trajectoires de migration et de mieux comprendre les déplacements saisonniers de l'espèce. Selon la LPO, 4 d'entre eux ont bien fait leur migration jusqu'en Afrique. Plusieurs projets sont prévus en 2025 avec l'utilisation de la nouvelle volière adaptée à l'accueil de vautours comme le Jipaet, la poursuite de la rénovation et de l'agrandissement des locaux avec une salle dédiée aux hérissons, une nurserie et 3 nouveaux enclos extérieurs pour les petits mammifères et les passereaux. Le centre va également poursuivre l'habilitation d'une piscine pour les oiseaux marins. Dans le cadre d'une collaboration avec le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, la LPO va baguer systématiquement tous les oiseaux relâchés pour répondre à différentes interrogations sur leur devenir et affiner les prises en charge. Une dernière information avant de vous quitter, l'obligation légale de débroussaillement est étendue à toutes les communes de l'Hérault en raison du risque d'incendie. Seules 260 collectivités y étaient soumises jusqu'à présent. En 2024, plus de 200 contrôles avaient été effectués par l'Office national des forêts et plus de 1000 avertissements envoyés. 100 propriétaires avaient été verbalisés pour ne pas avoir respecté cette obligation légale de débroussaillement et 700 hectares de végétation avaient brûlé. Si vous habitez en lisière d'une forêt, d'un espace boisé ou de garrigue, débroussaillez votre terrain sur une profondeur de 50 mètres autour de votre maison, même si cela empiète chez votre voisin. C'est une obligation avant la fin du printemps pour éviter la propagation des incendies. Si ce n'est pas fait, vous encourrez une contravention de 200 euros. C'est la fin de ce Zoom Info. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée sur les ondes de Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Thank you.